Je vous dirai essentiellement trois choses. La première, c'est une petite introduction qu'on pourrait dire catéchétique sur ce qu'est l'Écriture sainte. Ensuite, le rapport entre l'Écriture sainte et notre vie intérieure chrétienne. Et enfin, un exemple de la fécondité de l'Écriture sainte pour la vie spirituelle. Premièrement, ce que c'est que l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, c'est la parole de Dieu donnée aux hommes, écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu, comme nous le voyons ce matin, s'est révélé aux hommes. Il s'est révélé en particulier par l'Écriture. Il a pu se révéler de plusieurs façons, ou bien par la tradition orale, ou bien, je simplifie, bon, il faudrait mettre des nuances, mais je simplifie, ou bien par l'écriture. C'est-à-dire que certains hommes se sont mis à écrire sous la dictée, pour ainsi dire, du Saint-Esprit. Dictée, le mot n'est pas tout à fait exact, mais il rend un petit peu compte des choses. C'est ce qu'on appelle l'inspiration, c'est-à-dire que ce qui est dans la Sainte Écriture est écrit par l'auteur humain, Saint Paul, Moïse, Saint Matthieu, etc., mais il est écrit aussi par Dieu. Il a Dieu pour auteur. C'est évidemment des choses qui sont un petit peu difficiles à concevoir parce qu'elles sont surnaturelles. On dit que l'auteur est un instrument dans les mains de Dieu, voyez, comme en ce moment quand vous écrivez, votre crayon, votre stylo est un instrument dans votre main. C'est vous qui écrivez et c'est votre stylo qui écrit, les deux. Eh bien, lorsque Saint Paul écrit ses épîtres, c'est Saint Paul qui écrit, Saint Paul est un peu ce que le stylo est à Dieu et est à l'homme. Ce que le stylo est pour nous, Saint Paul l'est pour Dieu. Saint Paul est un instrument dans les mains de Dieu. Donc il y a ce qu'on appelle une analogie, c'est-à-dire une comparaison qu'on peut faire entre ces deux instruments. Le stylo dans les mains de l'homme, ou même le stylo dans les mains de Saint Paul. Pas de stylo à l'époque, le stylo dans les mains de l'homme et l'auteur humain dans les mains de Dieu, sous la conduite de Dieu. Évidemment, la différence, c'est que lorsque vous écrivez avec un stylo, le stylo est inanimé, inintelligent, non libre. Tandis que l'auteur humain, ce qu'on appelle l'hagiographe, dans les mains de Dieu, sous la conduite de l'Esprit-Saint, est libre. Et donc, ça explique que nous ayons un style de chaque auteur. Il y a un style de Saint Paul, il y a un style de Moïse, style de Saint Jean, il y a un style de Saint Matthieu. Donc, leur personnalité, leur choix, leur raison intervient dans leur écriture. Donc, évidemment, la comparaison est limitée. Mais cette comparaison nous permet de dire que, effectivement, c'est vraiment Dieu qui est l'auteur de la Sainte Écriture. Lorsque le psaume dit « Magnus Dominus, grand est le Seigneur », c'est Dieu qui dit lui-même cela. « Je suis grand. » Lorsque la Sainte Écriture dit « In principio creavit Deus celum et terram », au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, c'est Dieu qui l'écrit. Non seulement l'auteur de la Genèse, Moïse, c'est Dieu aussi qui le dit. Au commencement, j'ai créé le ciel et la terre. Lorsque nous lisons la Sainte Écriture, nous avons affaire à la parole de Dieu écrite et donc c'est Dieu qui s'exprime. C'est ce qui fait toute la valeur de la Sainte Écriture, qui est une source de la révélation avec la tradition orale. C'est que nous avons affaire à la parole de Dieu lui-même. C'est extraordinaire. Quand une personne nous parle, nous avons du plaisir à l'écouter si nous l'estimons. Que dire de Dieu? Il nous parle dans la Sainte Écriture. C'est vraiment lui qui nous parle. La charité est une amitié surnaturelle entre Dieu et l'homme. Eh bien, cette amitié s'enrichit d'une communication véritable. Dieu parle à son ami. Lorsque nous ouvrons la Sainte Écriture, c'est Dieu qui va s'adresser, c'est l'ami qui va s'adresser à son ami, le père qui va s'adresser à son enfant, son fils adoptif, le créateur qui s'adresse à sa créature qui lui parle. Si nous lisons la Sainte Écriture de cette façon, et pas seulement en y voyant la parole de Saint Paul, de Saint Matthieu ou que sais-je, mais que nous la lisons en nous disant « c'est Dieu qui va me parler », alors quelle valeur n'a pas cette lecture ? L'Église, évidemment, est l'interprète véritable de la Sainte Écriture, c'est elle qui nous livre son sens, c'est elle également qui décrète quels livres sont inspirés. Il y a beaucoup de livres dans l'histoire de l'Église qui ont apparu et dont on a prétendu qu'ils étaient inspirés, les apocryphes, et ils ne l'étaient pas. Quels sont vraiment les écrits dont les auteurs étaient instruments sous la motion divine ? C'est l'Église qui nous les donne. D'où l'ineptie qui consiste, comme le font les sectes protestantes, l'ineptie qui consiste à choisir soi-même les livres saints d'après des critères autres que ceux venant de Rome, puisque les canons de la Sainte Écriture ont été établis de façon définitive au Concile de Trente. Maintenant, il n'y a pas moyen de les changer. Bien sûr, il faut se garder de mépriser la Sainte Écriture, mais aussi se garder de l'exalter de façon exagérée. D'abord parce que la Sainte Écriture est une source de la révélation, mais pas un organe de la révélation. Quelle est cette nuance ? C'est que le bon Dieu va s'adresser aux âmes pour leur montrer les vérités qu'il veut leur révéler, pour leur enseigner la voie du salut. Par qui va-t-il le faire ? Par qui va-t-il s'adresser à toutes les âmes de l'histoire de l'humanité, et surtout du Nouveau Testament ? Eh bien, il va s'adresser à ces âmes du Nouveau Testament, toutes les âmes qui ont existé depuis Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde, par un organe qui est l'enseignement de l'Église, et non pas l'Écriture sainte. Et c'est là où nous nous différencions, évidemment, des protestants. Comment Dieu va enseigner à l'âme les mystères révélés, comment il va lui montrer comment se sauver, c'est par l'Église, par l'enseignement de l'Église, ce qu'on appelle le magistère. Donc, c'est pour se sauver, d'abord par le magistère qu'il faut passer. Quel est le moyen le plus populaire par lequel l'enseignement de l'Église nous est donné ? Le catéchisme. Et donc, c'est d'abord le catéchisme qui va être l'organe de la révélation, l'organe par lequel la révélation va nous parvenir. Donc nous devons estimer la Sainte Écriture au-dessus du catéchisme en tant qu'elle est inspirée, que le catéchisme ne l'est pas. Mais nous devons nous rappeler que la règle de notre foi, ce qui nous dit ce qu'il faut croire, comment il faut se sauver, c'est d'abord le magistère. C'est pour cela que, à choisir, comme on dit souvent, si on avait à partir sur une île déserte, avec un seul livre, il vaudrait mieux choisir le catéchisme que la Sainte Écriture. Et si les parents devaient enseigner à leurs enfants la voie du salut, il faudrait, avec un seul livre, il faudrait qu'ils se munissent d'abord du catéchisme et non pas de la Sainte Écriture. Également, la Sainte Écriture ne peut être lue avec fruit qu'interprétée par l'Église. Lorsqu'on lit la Sainte Écriture et qu'on a des difficultés, la Sainte Écriture elle-même nous dit « propria interpretatio non fit ». Ça ne se fait pas par la propre interprétation. N'essayez pas d'interpréter par vos propres lumières. Je n'ai pas compris cela, donc je vais essayer. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir. On peut bien sûr réfléchir à ce qu'on écrit, à ce qu'on lit. Mais le fruit de ces réflexions ne doit pas être tenu pour règle d'interprétation. J'ai lu ceci, d'après moi ça veut dire cela, donc c'est comme ça. Ah non, c'est pas comme ça, justement. C'est pas comme ça. Vous avez lu, vous avez réfléchi, d'après vous, ça veut dire cela, c'est peut-être cela. Mais vous ne pouvez pas en être sûr. Si vous voulez en être sûr, allez voir le magistère de l'Église et les pères de l'Église. Là, vous avez des normes certaines pour interpréter la Sainte Écriture. pour ne pas errer. Encore un point où on se différencie des protestants. L'Écriture sainte est notre vie spirituelle. L'importance d'une Écriture sainte pour notre vie spirituelle se conçoit facilement. En effet, qu'est-ce que la vie spirituelle? C'est la vie chrétienne, intérieure, c'est la vie surnaturelle de l'âme. La vie surnaturelle de l'âme se fonde sur les vérités révélées, qui nous enseignent ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour se sauver. Donc, la vie spirituelle surnaturelle se fonde sur la révélation. Or, où puise-t-on la révélation? Dans quelle source? Je ne dis pas dans quel organe, encore une fois, l'organe c'est le magistère. Dans quelle source puise-t-on la révélation? Dans la Sainte Écriture et dans la tradition, et en particulier dans la Sainte Écriture. Donc, ces vérités qui fondent notre vie spirituelle se trouvent dans la Sainte Écriture. Un exemple. La Sainte Écriture nous dit que heureux les doux. Elle nous dit heureux les pauvres d'esprit. Elle nous dit heureux les pacifiques, car tous ceux-là obtiendront le royaume des cieux. Or, notre vie spirituelle consiste à nous acheminer vers le royaume des cieux. Donc, notre vie spirituelle va se fonder en particulier sur ces béatitudes qui sont dans la Sainte Écriture. Vous voyez très clairement le lien qu'a la Sainte Écriture vis-à-vis de notre fin dernière surnaturelle et donc notre vie surnaturelle. Et le gros avantage de la Sainte Écriture, c'est qu'elle nous dit les choses dans un langage non scientifique, dans un langage qui est accessible à l'âme pour sa prière, pour sa méditation. Par exemple, les beautés des psaumes qui nous décrivent les richesses de Dieu et les mystères de la vie intérieure seraient dits dans un langage scientifique, didactique, d'enseignement, eh bien, ces beautés n'auraient pas du tout le même reflet. Le fait qu'elles soient exprimées dans le langage de la Sainte Écriture, avec les façons que ce langage a d'avoir, d'être par exemple langage poétique comme dans les psaumes, comme dans les proverbes, langage naïf dans le sens simple, comme dans les écrits historiques, eh bien tous ces langages sont adapté aux besoins de l'âme. On se plaît à découvrir les saintes vérités telles qu'elles sont exprimées dans la Sainte Écriture. J'en donnerai un exemple tout à l'heure. C'est un langage qui, lorsqu'il est en particulier poétique, introduit dans au mystère. Les mystères, par exemple, de Dieu, de sa miséricorde, les mystères de la loi de Dieu, de l'amour que l'âme doit avoir pour la loi de Dieu, sont magnifiquement exprimés dans le psaume 118. Il le serait dans un langage didactique, catéchétique, il le serait de façon très utile pour nos âmes, pour leur instruction, mais pour la prière, rien de tel que le langage des psaumes. C'est un langage poétique. Il va dire, selon des dizaines de versets, c'est le psaume le plus long, je crois, il va dire dans des dizaines de versets toujours la même chose. À chaque verset, c'est la même chose qui est dite. Vos commandements, Seigneur, sont ma délectation. J'aime vos commandements, c'est tout. Il ne dit que cela, des dizaines de versets. Mais à chaque verset, vous avez l'impression de redécouvrir cette vérité sous un angle différent. C'est l'art de la poésie, poésie inspirée par Dieu. Or, la poésie introduit au mystère. C'est pour cela, n'hésitons pas à ouvrir ces livres saints. N'hésitons pas à ouvrir notre psautier, vous avez un certain nombre de psaumes dans votre missel. N'hésitons pas à ouvrir ces psaumes pour prier. Pour prier, à lire ces psaumes. Du reste, ne sont pas rares les âmes, les fidèles qui se servent des psaumes, par exemple, bien sûr des évangiles, pour découvrir ces mystères de la vie divine, ces mystères de la vie spirituelle, dans ce langage unique de la Sainte Écriture. La passion de notre Seigneur telle qu'elle est décrite dans le psaume 21, par exemple, fait se mettre à genoux. C'est à peine si elle a moins de ressources, moins d'efficacité que l'évangile de la passion. Ou alors les prophéties d'Isaïe dans le livre 50 à 53 sur la passion de notre Seigneur sont magnifiques. Le serviteur souffrant, c'est magnifique. Et ça pousse à la prière. On lit cela et l'âme est invitée à la prière parce qu'elle est invitée au mystère. L'impact qu'a la poésie dans le domaine de l'art profane sur l'esprit, eh bien, la Sainte Écriture, avec son langage biblique, son langage scripturaire poétique ou autre, là, mais d'une façon bien plus vraie, bien plus surnaturelle. Et surnaturelle. Et la Sainte Écriture, donc, est une lecture spirituelle. C'est essentiellement en cela qu'elle va avoir un rapport à notre vie intérieure. Elle est une lecture spirituelle. Une lecture pour la nourriture de l'esprit, pour la nourriture de la vie intérieure, pour la nourriture de la méditation et de la prière. C'est ainsi qu'il faut l'utiliser. Et du reste, pendant de longs siècles, la Sainte Écriture a été la principale lecture, l'exclusive d'abord, lecture spirituelle des chrétiens. Aujourd'hui, vous avez vu sur ces magnifiques présentoirs qui sont à la sortie de la salle de conférence, vous avez une kyrielle de livres de lecture spirituelle qui sont d'auteurs divers. Vous avez du Saint Bernard, vous avez du Saint Alphonse de Ligorie, du Saint François de Sales, etc., etc. Mais dans les premiers siècles, tous ces grands auteurs n'existaient pas. De quoi se nourrissait-on? De la Sainte Écriture. Bien sûr, les moines, les anachorètes, mais aussi les simples chrétiens, se nourrissaient de la Sainte Écriture. La spiritualité monastique, en particulier la spiritualité bénédictine, donne à la Sainte Écriture une importance capitale, qu'on ne saurait exagérer. Selon la règle de Saint Benoît, le moine doit méditer la Sainte Écriture pratiquement jour et nuit. Ça signifie que lorsqu'il rentre dans sa cellule, ce qu'il doit étudier, c'est l'Écriture sainte. Et saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, au tout début de la somme théologique, présente la théologie d'une certaine façon, bon, on peut beaucoup discuter sur l'interprétation de ce qu'il dit, mais d'une certaine façon comme un commentaire de l'Écriture sainte. Tant dans ces siècles de foi, la Sainte Écriture nourrissait les âmes. Et on ne s'étonne pas donc que certains la connaissent par cœur. On disait que saint Antoine de Padoue connaissait la Sainte Écriture par cœur. Je crois que c'est dans la vie du saint curé d'Ars. Pourtant, c'est bien plus tard, encore c'est le 19e siècle, mais dans la vie du Saint-Curé d'Ars, un chapitre sur Ars n'est plus Ars, je crois, où on lit que les bergers, les paysans qui étaient dans les champs récitaient des psaumes et des parties de la Sainte Écriture par cœur. On était vraiment, il faut dire qu'on allait à Vêpres tous les dimanches à l'époque. Donc Vêpres, c'est 5 psaumes déjà. Et quand on récite depuis sa tendre enfance jusqu'à son dernier soupir, le In Exitu Israel d'Egypto, le 5e psaume, à la fin on le connaît par cœur. Et donc, l'Écriture sainte était vraiment la principale, l'exclusive d'abord, puis la principale lecture spirituelle. Petit à petit sont venues d'autres lectures spirituelles, comme les Actes des Martyrs, les écrits des Pères de l'Église, puis les écrits des grands auteurs mystiques, etc. Mais au tout départ, c'était la Sainte Écriture. Et donc on lisait aisément la Sainte Écriture, volontiers. C'était d'ailleurs l'étude principale. Alors comment faire de cette Sainte Écriture une lecture spirituelle pour nos âmes? Ça nécessite certaines dispositions. Les mêmes livres saints qui sont lus par un juif ou un protestant ne produiront pas du tout les mêmes effets que sur une âme catholique. Et sur une âme catholique, elles ne produiront pas les mêmes effets selon les dispositions que cette âme a lorsqu'elle lit la Sainte Écriture. Première disposition, la foi. Ce n'est pas si facile, surtout pour ceux qui la lisent régulièrement. Parce que tout doucement, on peut avoir un regard un peu plus naturel. Non, c'est la foi qui nous enseigne que là, c'est Dieu qui me parle. C'est très simple, mais il faut se le dire. Dieu créa l'homme dans le paradis terrestre. C'est Dieu qui me parle. Donc je ne discute pas. l'esprit de foi. La docilité. Lire pas avec un esprit critique, mais avec l'esprit du disciple, docile. Docere, docile. Je me laisse enseigner. Psaume 119. J'ouvre large ma bouche et j'aspire avide de tes commandements. Docilité, surtout pour le fidèle qui lit cela pour sa vie spirituelle. C'est-à-dire que le prêtre ou le futur prêtre lit la Sainte Écriture et pour sa vie spirituelle et pour la vie spirituelle de son prochain. Le fidèle le lit beaucoup plus pour sa vie spirituelle. Bien sûr, il le lit aussi pour les autres, pour pouvoir ensuite enseigner les autres si cela lui est donné, ou bien être un catholique éclairé, comment dire, au courant de ce que contient la Sainte Écriture, pour pouvoir en répondre. Mais, et donc pour le fidèle, pardon, la Sainte Écriture est encore plus de façon principale adressée à sa sanctification personnelle. Et donc, il nous faut lire la Sainte Écriture en nous l'appliquant. Lorsque nous lisons l'Évangile, on peut très bien lire les béatitudes sans se l'appliquer, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut le lire. Il faut essayer de le lire en se l'appliquant. Heureux les doux, heureux les humbles. Heureux les pacifiques. Est-ce que je suis pacifique? Heureux les pauvres d'esprit. Est-ce que je fais partie de ces heureux? La lire avec respect, avec humilité. Il n'y a pas si longtemps, dans certains ordres religieux, je pense que ça existe encore dans la tradition, on devait lire la Sainte Écriture à genoux. Les sulpiciens, les eudistes, lisaient la Sainte Écriture à genoux. Jean-Jacques Ollier ne l'ouvrait jamais sans s'être mis à genoux et s'être dénudé la tête. Pour exciter la foi. Cherchez notre Seigneur dans la Sainte Écriture. Car tout l'Ancien Testament nous parle de lui, figure, et tout le Nouveau Testament nous le raconte. Et donc nous devons chercher notre Seigneur dans la Sainte Écriture. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Celui qui cherche la Sainte Écriture, à lire la Sainte Écriture avec cette docilité au Saint-Esprit, cette soumission à la grâce, la comprendra mieux, en découvrira davantage le sens. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui a inspiré cette Sainte Écriture qui nous éclaire. Il agit en amont, en aval. Et au bout du compte, c'est vers lui que nous tendons, par le moyen de la Sainte Écriture. Donc il est en avant, en avant, en arrière, partout. Alors mettons-nous sous sa conduite. L'idéal serait de lire l'Écriture sainte autant que possible dans un esprit de prière. Enfin, ça n'est pas toujours facile, évidemment. Si vous ouvrez l'Écriture sainte dans le métro entre la station Barbès-Rochouart et je ne sais quoi, il écrit l'esprit de prière, c'est pas facile, c'est vrai. Mais essayons de nous unir à Dieu à travers la Sainte Écriture. Et nous y trouverons des fruits pour notre âme. La Sainte Écriture apaise l'âme. Elle apaise. Parce qu'elle est la présence de Dieu. Dieu y est présent. Parce qu'il est là par sa parole. Il est présent par son effet. Et puis c'est les mystères qui le regardent que nous découvrons dans la Sainte Écriture. Donc, lorsque nous sommes dans le trouble, nous accédons à la présence de Dieu. Présence dans la Sainte Écriture. Une certaine présence. On va l'exagérer comme les modernistes, évidemment. Mais il y a une certaine présence. Et donc, cela va nous apaiser. Cela va nous apaiser. Nous sommes dans la tribulation, dans la croix, sous la croix. Heureux ceux qui pleurent. Qui aurait osé dire cela? Heureux ceux qui pleurent. nous sommes dans, dans la crainte, nous sommes dans la confusion du péché, psaume 50, miserere mei Deus. Et là, nous entrons dans les sentiments de David, pénitent, et Dieu met doucement dans notre âme les sentiments de David pénitent. Donc, lire la Sainte Écriture. Comment lire la Sainte Écriture? Alors, ça n'est pas facile quand on vit dans le monde, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors, déjà, quand on dit sa prière du matin, sa prière du soir, son chapelet, on est déjà assez content. Pas mal. Alors, quand on arrive à ajouter un petit peu d'oraison, c'est bien. Alors, si en plus il faut caser, comme on dit, un peu de lecture de la Bible, ça devient un véritable sport. Alors, il faut faire évidemment le possible, à l'impossibilité, nemo tenetur, personne n'est tenu à l'impossible. Essayer de s'organiser. L'important n'est pas de lire beaucoup, mais de lire bien. Donc si on ne lit qu'un chapitre, un chapitre de la Sainte Écriture, selon les chapitres, c'est pas très long à lire. 5-10 minutes. Voir, si on n'arrive pas à lire un chapitre, ne lire qu'un paragraphe, c'est déjà cela. Un paragraphe de l'Évangile. Ne lire qu'un psaume, c'est déjà ça. Quelques petits versets des Proverbes. L'important, c'est de bien lire avec ces conditions qui ont été décrites, et puis de méditer. C'était la force des moines. C'est la force des moines. La Sainte Écriture devient une nourriture quotidienne qu'ils méditent, comme un bonbon qu'on suce dans la journée. J'ai lu ce matin telle parole des Proverbes. J'essaie de comprendre, j'essaie de la goûter, j'essaie de la vivre. Alors j'y pense. Je roule en voiture, plutôt que de laisser trop mon âme vagabonder à diverses choses, sans faire attention quand même à la circulation automobile. L'avantage un petit peu de l'autoroute quand même, c'est qu'on a un peu plus de possibilités. D'ailleurs, vous savez qu'il existe des CD-ROM où la Sainte Écriture, où les évangiles sont lus par la Comédie Française. Voix différentes selon, donc une voix pour notre Seigneur, une voix pour le lecteur, etc. etc. Alors, c'est sous l'égide de Monseigneur Thomas qui était à l'époque évêque de Versailles. Donc, évidemment, je pense que dans la tradition, on n'aurait pas fait la même chose. Mais, c'est à mon avis, ça peut être acheté, ça peut être écouté, parce que la traduction n'est pas mauvaise, je crois que c'est la Bible de Jérusalem. Bon, on peut discuter sur l'accent, etc. Mais en voiture, par exemple, pour ceux qui, ou celles qui font beaucoup de voitures, c'est pas une mauvaise solution. C'est très vivant. On écoute par exemple les malédictions aux pharisiens, on écoute l'évangile de la nativité, ça prend un tour tout à fait différent, parce que c'est lu, c'est récité. Donc lire un petit peu chaque jour, le méditer, y penser, en vivre. Alors un petit exemple, pour terminer donc, troisième partie, la paternité divine dans l'Ancien Testament. C'est quelques petits textes qui vous montrent qu'à partir, non pas du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, la paternité du bon Dieu vis-à-vis de nos âmes est exprimée d'une façon qui peut être très féconde pour notre vie intérieure. La Sainte Écriture nous dit que Dieu est notre Père. Ecclésiastique, chapitre 23. Seigneur, Père et souverain maître de ma vie. Seigneur, Père et Dieu de ma vie. Il faut lire ça, non seulement en se disant, bon voilà, c'est l'auteur d'Ecclésiastique. Seigneur, Père et souverain maître de ma vie. Père de ma vie. Seigneur, Père et Dieu de ma vie. Et Isaïe. Ô Yahvé, vous êtes notre Père. Regardez donc, nous sommes votre peuple. C'est simple. Vous êtes notre Père, nous sommes votre peuple. Vous êtes mon Père, suive autre chose. Comme un père, le bon Dieu est protecteur, ce que nous dit le psaume 117. Regardons comment la Sainte Écriture exprime cette vérité. Quand je marche dans la tribulation, vous me vivifiez. Sur la colère de mes ennemis, vous étendez la main. Votre droite m'a sauvé. Yahvé agit pour moi. Yahvé, votre miséricorde est éternelle. Les œuvres de vos mains, ne les méprisez pas. Dans un sentiment de l'âme, le psalmiste sait bien comment tourner cette âme vers Dieu. Les œuvres de vos mains, ne les méprisez pas. Parce que nous avons péché. Seigneur, les œuvres de vos mains, ne les méprisez pas. Quand nous avons besoin de protection. Je marche dans la tribulation, vous me vivifiez. On peut apprendre ça par cœur. Certains recommandent qu'après avoir lu un petit paragraphe de la Sainte Écriture, on retienne toujours un petit passage par cœur. C'est ce qui fait d'ailleurs que les auteurs anciens connaissaient la Sainte Écriture presque par cœur. Quand on lit par exemple les encycliques de Léon XIII ou les écrits de Saint Bernard, on est frappé. On a l'impression que ils savent la Sainte Écriture par cœur. Par exemple, les écrits de Saint Bernard, ce sont presque des citations de la Sainte Écriture cousues ensemble. Le paragraphe, la phrase correspondante à la Sainte Écriture le dit. Dieu est un père, un protecteur. Et le père reprend l'âme lorsqu'elle a péché. C'est ce que dit par exemple Dieu dans la Genèse. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas le bien, le péché ne se couche-t-il pas à ta porte? Son désir se tourne vers toi, mais toi tu dois dominer sur lui. Dans la tentation. Tentation. Par exemple, tentation de péché contre la chair. Si tu ne fais pas le bien, le péché ne se couche-t-il pas à ta porte? Son désir se tourne vers toi, mais toi tu dois dominer sur lui. Certains auteurs spirituels recommandent dans la tentation, quelle qu'elle soit, de citer la Sainte Écriture. Et cet exemple d'ailleurs nous est donné par notre Seigneur. Que fait-il face aux trois tentations du démon? Comment répond-il au démon? La Sainte Écriture. Le démon lui dit, fais que ces pierres se changent en pain. L'homme, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan lui dit, adore-moi. Notre Seigneur, si tu m'adores, dit Satan, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Notre Seigneur, arrière Satan. Il est dit, tu adoreras Dieu seul. Notre Seigneur chasse Satan par la Sainte Écriture. Chassons la tentation par la Sainte Écriture. Nous avons une tentation, qu'importe, nous avons une tentation de colère. Heureux les doux. Nous avons une tentation d'orgueil. Il a exalté les humbles. Répétons-nous-le. Nous avons une tentation de péché impur. Citons la Sainte Écriture. Quelle que soit la tentation. Péchons. Le fils pêche. Le père va s'adresser à ce fils pour essayer de le ramener à lui. Il va d'abord l'appeler à l'amour. Mon fils, disent les proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux gardent mes voies. C'est notre Seigneur qui s'adresse à nous. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il ne dit pas donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ton temps, donne-moi tes activités. Donne-moi tes pensées, donne-moi ton cœur. Le cœur, c'est la volonté dans le langage biblique, dans le langage théologique. Donne-moi ta volonté. Mais ta volonté, c'est une faculté de l'âme. Donne-moi ton âme, donne-moi toi-même. Vous voyez ? Simplement, à partir d'une petite parole de la Sainte Écriture, comme ça, la prière vient toute seule. Enfin, toute seule, il faut bien sûr demander au Saint-Esprit de nous aider. Méditez, retournez ça comme un bonbon. La colère de Dieu contre le pécheur. peut être bon, parce que nous avons offensé le bon Dieu. Que dit Dieu ? Ils n'ont point écouté et ils n'ont point prêté l'oreille, et ils ont marché selon leurs conseils, selon l'endurcissement de leur mauvais cœur. C'est le bon Dieu qui s'adresse à nous. Voyez ? Nous cherchons par exemple à faire de bons examens de conscience, le soir, ou alors avant notre confession. Nous préparons à la confession. Le plus important dans la préparation de la confession, ce n'est pas l'examen de la connaissance de nos péchés. Le plus important, c'est le regret de nos péchés, et la haine de nos péchés, et la volonté mue par la grâce du bon Dieu de faire mieux. Eh bien, aidons-nous des textes de la Sainte Écriture. D'ailleurs, dans les missels, vous avez des références. On vous dit aller voir le psaume, tant, tel verset, etc. Et nous lirons. Nous écouterons le bon Dieu qui nous dit « Tu ne m'as point écouté, tu n'as point prêté l'oreille, tu as marché selon ton conseil, selon l'endurcissement de ton mauvais cœur. » Belle parole pour notre contrition. Et puis le bon Dieu, comme un père, appelle à la conversion. Maintenant encore, Joël, chapitre 2, verset 12, « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes et des lamentations. » Après notre confession, notre action de grâce, disons, maintenant encore, nous pouvons même écrire, comme certains peuvent le faire, écrire les paroles Sainte Écriture qui nous marquent le plus, maintenant encore, reviens à moi de tout ton cœur, avec des jeûnes et des lamentations. Isaïe. Chapitre 49. Si on disait « Yahvé m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », une femme oubliera-t-elle son nourrisson ? N'aura-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand même les mères oublieraient leurs enfants, moi je ne t'oublierai point. Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Ce langage poétique métaphorique, « Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains », est propice à la prière. Propice à la prière. Donc à la vie spirituelle. Ainsi parle Yahvé, vous serez allaité, porté sur le sein, caressé sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, et vous serez consolé dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Voilà, action de grâce. J'ai péché, pardon. Alors maintenant je vais au bon Dieu comme un père, plus un père qui reprend, mais un père qui m'aide. Qui me dit, comme un homme que sa mère console, je te consolerai. Tu seras consolé dans Jérusalem, dans l'église, dans le temple de l'église où je me suis confessé. Tu le verras et ton cœur sera dans la joie, et tes os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Je conclurai simplement avec cette citation de l'Imitation de Jésus-Christ, qui reprend ce que nous avons dit, donc, ce qu'est la Sainte Écriture, la parole de Dieu écrite. Combien elle est féconde pour notre vie spirituelle, elle est la lecture spirituelle principale de l'âme. Comme nous l'a montré cet exemple de la paternité divine telle qu'elle est dans l'Ancien Testament. Écoutons l'Imitation de Jésus-Christ, livre 4, chapitre 2. Je sens que deux choses me sont ici-bas souvenement nécessaires, et que sans elle, je ne pourrais porter le poids de cette misérable vie. Enfermé dans la prison du corps, j'ai besoin de deux choses, d'aliments et de lumière. C'est pourquoi, mon Dieu, vous avez donné à ce pauvre infirme votre chair sacrée, pour être la nourriture de son âme et de son corps, Eucharistie, et votre parole pour luire comme une lampe devant ses pas, votre parole, la Sainte Écriture, notre lumière. Je ne pourrais vivre sans ces deux choses. Dans les âges monastiques, c'était impensable qu'un moine pût passer une journée sans lire dans la journée sa Sainte Écriture. Pour de nombreux fidèles, il en était de même, surtout dans les tout premiers siècles. Impensable. Alors évidemment, les temps ont changé, nous faisons ce que nous pouvons, mais tâchons petit à petit d'essayer de reprendre cette habitude. Façon réaliste, il ne s'agit pas de dire voilà, ça y est, maintenant c'est trois chapitres de l'Ancien Testament, quatre chapitres du Nouveau Testament par jour, résolution de retraite qu'on ne prendra jamais, qu'on gardera jamais, bien sûr. On ne prendrait pas d'ailleurs une résolution pareille. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut tâcher, avec la lumière, en particulier des précédentes retraites, de voir bon, qu'est-ce que je peux tenir raisonnablement, qui normalement j'arriverai à tenir. Quoi. Bon. Si je peux tenir simplement un paragraphe de la Sainte Écriture par jour, ou même tous les deux jours, eh bien je m'en tiens à ça. Avant de me coucher, je lirai un paragraphe. Un paragraphe de la Sainte Écriture, une minute. Gros paragraphe, 2-3 minutes. 2-3 minutes, d'accord. C'est pas beaucoup, quand même. On dirait, aujourd'hui, c'est beaucoup, monsieur l'abbé, en 2002, quand on est ceci, quand on est cela. D'accord, c'est vrai. Eh bien, donnez ce beaucoup au bon Dieu. Je ne pourrais vivre sans ces deux choses, car la parole de Dieu est la lumière de l'âme. Je ne peux pas vivre sans lumière. Je connais un père qui est moine bénédictin, et une fois je suis allé le voir, il était de passage en France, et c'était au séminaire des Cônes, et alors je parlais un petit peu avec lui, et il y a quelque chose qui m'a frappé, que j'avais déjà vu chez un autre père, c'est qu'il avait sur son bureau un missel ouvert à une page de la Sainte Écriture, et c'est une pratique, on laisse le missel ouvert toute la journée, à la même page. On passe devant le missel, on repasse devant le missel, on va qu'à ses occupations, le missel est là, il est ouvert à la phrase de la Sainte Écriture. On ne peut pas faire la même chose, forcément, parce qu'il y a tellement de choses sur la table, le missel n'a pas sa place. Mais il reste la mémoire. On peut encore les regarder, la parole de Dieu et l'Eucharistie, comme deux tables placées dans les trésors de l'Église. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, lumière de l'éternelle lumière, de nous avoir donné par le ministère des prophètes, des apôtres et des autres docteurs cette table de la doctrine sainte. Action de grâce pour la Sainte Écriture, pour la parole de Dieu qui s'adresse à nous, à moi.
L'instruction d'aujourd'hui, de ce soir, a pour objet la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout d'abord, rapidement, je voudrais vous rappeler un petit peu ce que dit la foi sur le but de cette passion, la nécessité de cette passion. Le genre humain avait été créé donc dans l'état de justice originelle, et le péché de notre premier père, Adam, a entraîné tout le genre humain dans la déchéance, dans le péché originel, qui se communique à part Notre-Dame à tout homme. Et donc, Dieu aurait pu laisser le genre humain dans cet état. À ce moment-là, l'homme n'aurait pas pu racheter par lui-même son péché. Que ce soit le péché originel ou le péché personnel mortel. Parce que il n'est pas possible de se hisser de soi-même de l'état de péché originel ou mortel à l'état de grâce. Donc Dieu aurait pu le laisser, il n'était pas tenu à sauver l'homme de cet état, à lui réouvrir les portes du ciel qui étaient ouvertes à Adam avant le péché originel mais fermées après. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a voulu aider l'homme, prendre sur lui de le sauver. Et donc, il s'est incarné. L'incarnation a pour but la rédemption. Et il aurait suffi, que Dieu fait homme, posa un seul acte de charité, pour que cet acte de charité mérite à tous les hommes, en principe, le rachat de leur péché et donc le passage du péché à l'état de grâce. Parce que Dieu homme est infini, donc ses actions ont un mérite infini. Il aurait suffi donc n'importe quel acte de charité. Par exemple, Dieu s'incarnant, notre Seigneur dans le sein de la Sainte Vierge Marie aurait fait un seul acte de charité, comme il l'a fait d'ailleurs dès le début de sa conception. Et par cet acte de charité suffisait à nous mériter le salut pour tous les hommes, et également à satisfaire pour la peine due au péché, donc à obtenir le pardon du péché par voie de mérite, et à effacer la peine due au péché par voie de satisfaction. Mais le bon Dieu a voulu la passion. La passion pour un certain nombre de raisons, en particulier parce que il a voulu nous donner une plus grande horreur du péché en voyant les souffrances que notre Seigneur a endurées dans sa passion. Donc la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'œuvre dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve principalement. C'est elle qui, par voie de mérite, c'est une action qui est méritoire, et puis par voie de satisfaction, c'est une peine, c'est pénible, nous obtient le pardon de nos péchés et puis le fait que notre peine est effacée. En particulier la peine éternelle qui était la damnation. Bien évidemment, ensuite, pour que cette passion sauve effectivement l'âme, il faut que l'âme reçoive les fruits de cette passion, ce qui se fait essentiellement par le baptême. Ces données de la foi ou de la théologie, nous passons rapidement dessus. Ce que je voudrais simplement, c'est vous relire un petit peu quelques éléments de quelques instructions que j'ai données lors d'une retraite sur la passion, ici même d'ailleurs. Donc, c'est quelques petites réflexions sur la mort en croix. Donc, ce moment de la passion qui est la fin de la passion. Les souffrances de notre Seigneur qui ont préludé ultimement à sa mort et sa mort. Le supplice donc de la croix chez les Romains était un supplice, comme vous le savez peut-être, qui était réservé aux esclaves. C'était parce que c'était un supplice non seulement très douloureux mais très infamant, très humiliant. Cette croix donc contenait deux branches, une branche verticale, ce qu'on appelait le stipes, et puis une branche horizontale qu'on appelait le patibulum, qui était placée sur le stipes, calée sur le stipes, on va dire. Cette croix était très lourde, mais il est très probable que le condamné n'en portait qu'une partie, il ne portait que le patibulum, c'est-à-dire la branche verticale. La branche horizontale était déjà plantée au calvaire, enfin sur l'endroit de la condamnation, avant que le condamné n'y arrive. Donc notre Seigneur porte sa croix et arrive au calvaire. Il vint dans un lieu appelé en hébreu Golgotha, ce qui signifie calvaire. Ils lui donnèrent du vin mélangé à de la myrrhe. Et lorsqu'il en eut goûté, il ne voulut pas le boire. Puis ils le crucifièrent, et avec lui deux larrons, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et l'Écriture fut accomplie qui dit « Et il a été mis au rang des hommes injustes ». Ils le crucifièrent à la troisième heure. Il faut donc crucifier le condamné. Il est 9h du matin lorsqu'on crucifie notre Seigneur. On commence par lui enlever les vêtements de dessus et puis on lui ôte sa tunique, ce qui est une tâche difficile parce que la tunique s'est collée au plaie de la flagellation. En le dépouillant, on décolle les cicatrices. On ouvre à nouveau les plaies, d'où la douleur de notre Seigneur répandue sur tout le corps. On place le patibulum au sol. Le condamné est couché. Les bras sont le long du patibulum. Donc nous allons écouter ce que le docteur Babet raconte à partir de l'examen de la croix et du sanctuaire. Je cite. L'horrible chose commence. On va clouer notre Seigneur. Le bourreau prend son clou, un long clou pointu et carré, qui près de sa grosse tête est large de 8 mm. Il le pique sur le poignet, dans ce pli antérieur qu'il connaît d'expérience. Bon, c'est disputé un petit peu l'endroit où le clou a été mis, mais peu importe. Un seul coup de son gros marteau, le clou est déjà fiché dans le bois, où quelques coups énergiques le fixent solidement. Jésus n'a pas crié, mais son visage, horriblement, se contracte. Son pouce, d'un mouvement impérieux, se met en opposition dans la pomme. Ce mouvement-là, qui est dû à la souffrance, enfin au nerf qui est sollicité. Son nerf médian a été touché. Il éprouve, il ne peut pas ne pas éprouver une douleur indicible, inouïe, fulgurante, qui s'est éparpillée dans ses doigts, a jailli comme un trait de feu jusqu'à son épaule et a éclaté dans son cerveau. C'est la douleur la plus insupportable qu'un homme puisse éprouver, celle que donne la blessure des gros troncs nerveux. Presque toujours, elle entraîne la syncope et c'est heureux. Mais Jésus n'a pas voulu perdre connaissance. Encore si le nerf était entièrement coupé, mais il n'est que partiellement détruit, la plaie du tronc nerveux reste en contact avec ce clou. Et sur lui, tout à l'heure, quand le corps sera suspendu, il sera fortement tendu comme une corde à violon sur son chevalet. Et il vibrera à chaque secousse, à chaque mouvement, réveillant la douleur horrible, il en a pour 3 heures. Cette douleur du dernier médian est une douleur terrible, mais évidemment elle s'additionne à toutes les autres douleurs, en particulier la douleur de l'asphyxie, comme j'y reviendrai si j'ai le temps, la douleur de l'asphyxie pendant 3 heures. Récemment, un ami me disait qu'il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'emphysème, je crois, ou quelque chose comme ça, un problème de respiration. Et il m'a dit, il y a de nombreuses années, j'ai eu une crise d'asphyxie. Donc pendant 1 heure et demie, je n'ai pu respirer qu'avec un tout petit filet d'air. Tout petit filet d'air pendant 1 heure et demie. Et il a dit, j'ai jamais connu une douleur aussi horrible. C'est absolument affreux. On a l'impression de mourir à chaque seconde et qu'on ne va pas pouvoir respirer ce filet d'air. Et il a dit, à ce moment-là, j'ai compris ce que notre Seigneur a pu vivre pendant 3 heures, sachant que pour lui, c'était l'une de ses souffrances physiques. On cloue donc les mains du Christ. Il n'y a peut-être pas d'injustice à ce qu'on cloue les mains des deux larrons. Ce sont des mains qui ont volé, peut-être, tué. Ce sont des mains qui ont servi comme des membres d'injustice. Mais les mains du Christ n'ont été que membres de justice. Ce sont des mains qui ont béni des enfants. Comme il est écrit en Saint Marc 10, 16. Ce sont des mains qui ont guéri les lépreux. Des mains qui ont ôté la fièvre. Ce sont des mains qui ont ressuscité les morts, comme la jeune fille de Capharnaüm. Ce sont des mains qui n'ont fait que le bien et on les cloue. L'agneau innocent est immolé. Qui donc cloue ses mains au bois de la croix? Certainement, ce sont les soldats romains. Derrière lui, il y a tous les pécheurs. Certes, on ne peut pas dire que les pécheurs clouent les mains du Sauveur. Mais nous avons fait ce qu'il fallait pour que ses mains soient clouées. Nous ne les avons pas clouées, mais nous avons fait ce qui a mérité qu'elle soit clouée. Ses péchés sont d'ailleurs dans la main du Sauveur, selon qu'il le dit lui-même en Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et lui a donné tout dans ses mains. Les pécheurs sont donc dans la main du Sauveur, pardon, non pas les péchés, mais les pécheurs sont dans la main du Sauveur, dans ses mains clouées de notre Seigneur sur sa croix. Donc, tous donc, nous aussi, pécheurs et pourtant disciples, nous sommes dans la main du Sauveur, les brebis perdues. Nous sommes les brebis perdues. Les brebis sont dans la main de l'agneau immolé, qui a laissé les 99 autres brebis et il est allé chercher la brebis perdue. Et il la tient. Mais personne n'enlèvera ses brebis de sa main. C'est lui qui le dit. Personne n'enlèvera mes brebis de ma main. Notre Seigneur tient son corps mystique dans sa main. Qui supporte ses clous. Et ses plaies des mains seront désormais la signature de son corps, comme il le dira en Luc 24, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Continuons l'évangile. « Mais Jésus disait, « Pater dimitte illis non enim scium quid facium. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette parole n'est pas, on pourrait dire beaucoup de choses sur cette parole, mais peut-être qu'il vaut mieux se taire. Parce que dans de telles circonstances, que le premier mouvement de l'âme Notre Seigneur soit un mouvement de pardon, non de condamnation, mais de pardon, de demande à son Père de pardon, ça dit tellement de choses sur l'âme de Notre Seigneur qu'il vaut mieux se taire et contempler. Faire silence. transpose sur la croix l'inscription de Pilate, on enlève les vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ et on tire au sort ses vêtements. L'évangile continue. Ceux qui passaient là, le peuple qui était là, le blasphémaient en hochant de la tête et en disant « Alors toi qui détruis le temple de Dieu et qui en 3 jours le reconstruis, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les princes des prêtres et les scribes se moquaient de lui et disaient aux plus anciens « Il en a sauvé d'autres et voici qu'il ne peut pas même se sauver lui-même. » L'un des 2 larrons qui était suspendu le blasphémait en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait en disant « Toi non plus, tu ne crains pas Dieu, toi qui partages ma condamnation ? Et nous, c'est de façon juste que nous sommes ici, car nous recevons ce que nous avons mérité. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait à Jésus « Seigneur, souvenez-vous de moi. » lorsque vous entrerez dans votre royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Nous avons donc 2 larrons. Le premier larron, le larron de gauche, souffre mal. Il n'expie pas, il se révolte. Il a vu les princes des prêtres, les passants, les soldats, c'est-à-dire les représentants de toute l'humanité, tenter Dieu, se moquer de son Christ, descend de la croix. Il a vu la provocation du suprême instant qui venait de Satan. Et ce mauvais larron va être scandalisé par ses péchés des prêtres. Il va faire comme eux. C'est-à-dire qu'il va être, il va tomber. Il va dire ce qu'ils ont dit. Sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais le bon larron, lui, va le reprendre. Lui souffre bien. Et ce sera l'occasion pour l'évangéliste Saint-Luc de nous donner quelques paroles parmi les plus belles et les plus riches de tout l'évangile. Nous, c'est de façon juste que nous sommes ici, car nous recevons ce que nous avons mérité. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qui a pu toucher le bon larron? Qu'est-ce qui, de larron, l'a fait bon? Il est certes possible que ce soit l'intercession de la Sainte Vierge Marie qui était au pied de la croix, qui ait joué pour sa conversion. Mais aussi une autre chose a pu faire son effet. Il y a quelques instants, au moment où l'on élevait notre Seigneur en haut de la croix, Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il est bien possible que ce soit cette parole qui ait gagné le bon larron. La douceur, la mansuétude, la miséricorde du souverain prêtre qui ont tant de fois dans l'Évangile gagné les âmes, gagne encore une âme, la plus difficile. « Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous entrerez dans votre royaume. » C'est une demande de pardon. Le bon larron souffre et expie à la fois. C'est la vraie souffrance, c'est la vraie expiation, la satisfaction. Le bon larron est la figure de ceux qui, au jour du jugement dernier, s'entendront dire « Venez les bénis de mon Père, venez prendre possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Car j'ai souffert et vous m'avez consolé. » Jésus souffre en effet et le bon larron, pour ainsi dire oubliant sa propre souffrance, console notre Seigneur par sa conversion. Mais notre Seigneur, qui rend toujours au centuple, même en cette vie, rend déjà au centuple au bon larron par la consolation de la promesse du ciel. S'il y a bien une grâce à demander à notre Seigneur, c'est celle d'une bonne mort. Il y a en chacun de nous un petit larron qui se cache. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a en chacun de nous une condamnation à mort. Mais de la façon d'accepter cette mort dépend la rapidité de notre accès au ciel. Il s'agit pour nous d'offrir notre mort avec toutes ses souffrances, comme nous le disons le vendredi au chemin de croix. Cette satisfaction, cette peine effectuée par nous qui avons fait quelque chose de mal, nous l'unissons à la satisfaction de celui qui, comme le dit le bon larron, n'a rien fait de mal, à la satisfaction de notre Seigneur, qui souffre pour ceux qui ont fait quelque chose de mal. Et notre satisfaction, voyez, notre satisfaction ne trouve de valeur qu'unie à la satisfaction, à l'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car si le bon larron lui-même peut satisfaire en offrant sa propre mort, car il l'offre, il est le modèle de la bonne mort, C'est parce que à côté de lui souffre celui qui satisfait aussi et qui satisfait à notre place. Je vous lisais au tout début, notre Seigneur vient, le Verbe vient sur la terre pour satisfaire. Et sa satisfaction a une valeur infinie. Et c'est parce que la valeur de la satisfaction de notre Seigneur est infinie, parce qu'il est Dieu et homme, que notre satisfaction peut valoir quelque chose. Les petites souffrances que nous, ou les grandes souffrances que nous offrons dans notre vie, en esprit d'expiation, de satisfaction, de mérite même, pour les pécheurs, pour nous-mêmes, ne vaut quelque chose qu'unie à la satisfaction de l'homme-Dieu. Unie à cette satisfaction qui a une valeur infinie. C'est un peu comme si les deux croix s'unissaient, celle du Christ, celle du bon larron, et la nôtre. Les deux croix s'unissent car le Christ et le bon larron font un dans le corps mystique, et nous aussi avec eux. Il nous faut donc mêler notre croix à la croix du bon larron, à la croix de notre Seigneur, mêler nos souffrances à leurs souffrances, notre sang à leur sang, notre esprit à leur esprit, afin d'obtenir, comme le bon larron, la gloire. Comme le dit saint Paul, si nous souffrons avec lui, alors nous serons glorifiés avec lui. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas, et Marie-Madeleine. Lorsque Jésus eut vu sa mère et le disciple qu'il aimait, se tenant là, il dit à sa mère, « Femme, voici votre fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure, le disciple la prit chez lui. La Sainte Vierge Marie n'est pas au calvaire seulement témoin de la passion de notre Seigneur, elle est acteur. Si la très Sainte Vierge Marie est mère de Dieu, c'est pour que Dieu s'incarne. Si Dieu s'incarne, c'est pour sauver les hommes. Donc si la Sainte Vierge Marie est mère de Dieu, c'est pour le salut des hommes. La maternité divine est ordonnée à la rédemption. Donc nous devons à la Sainte Vierge Marie notre salut. Nous devons au fiat, à l'acceptation, au moment de l'annonciation, notre salut. Nous ne le devons pas qu'au fiat, nous le devons à la présence de la Sainte Vierge Marie sous la croix. Que fait la Sainte Vierge Marie sous la croix? En quoi est-elle acteur et non seulement témoin? Elle ne fait que consentir, elle ne fait que consentir. Et ce n'est pas rien de consentir, car elle consent à ce que son Fils unique, pour lequel elle a une charité qui dépasse toutes les charités de tous les hommes de l'histoire de l'Église pris ensemble, elle consent donc à ce que ce Fils qu'elle aime, ce Fils innocent, nihil maleficit, s'il n'a rien fait de mal, souffre et meurt à l'âge de 33 ans. Elle savait que les choses se termineraient ainsi au jour de l'Annonciation. Elle l'avait accepté. Quel est son mérite au pied de la croix? C'est de maintenir cette acceptation, de ne pas se révolter alors qu'elle voit ce qu'elle avait accepté. Et elle le fait en se tenant debout, stabat. Elle ira jusqu'au bout. Comme son Fils, infinem dilexiteos, elle nous aime jusqu'à la fin. La Sainte Vierge Marie nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Car elle sait que c'est pour les âmes qu'il faut accepter ce calice auquel elle boit. Et auquel elle boit dans un certain sens de façon comparable à son Fils, puisqu'une mère, c'est bien connu, souffre ce que son Fils souffre son Fils, tout autant presque que si elle le souffrait elle-même. À sa place. Elle accepte donc. Elle est libre. C'est tout son mérite. Son Fils veut souffrir. La Sainte Vierge veut que son Fils souffre. Elle unit ses mérites au mérite de son Fils. Elle unit sa satisfaction, son expiation, à l'expiation de son Fils. Elle unit son sacrifice au sacrifice de son Fils. Et tout par charité. Ce sont donc les deux cœurs unis, le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé et très douloureux de sa mère, qui offrent le sacrifice. Il n'y a pas deux sacrifices, il n'y en a qu'un, c'est celui du Fils, mais il l'offre différemment. La place de la Sainte Vierge Marie, donc, est toute spéciale dans l'Église, car ayant accepté, ayant offert le sacrifice de notre Seigneur, ce sacrifice étant pendu à son acceptation, ses mérites à elle, ses prières concernent toute l'Église. Toutes les grâces sont dues à elle. Et donc, notre Seigneur va l'instituer mère spirituelle de tous les hommes. Femme, voici votre fils. Qu'est-ce que ça veut dire, femme, voici votre fils? Je meurs. La charité que vous avez eue pour moi, vous ne la reporterez pas sur Saint Jean, car la charité de la mère pour son fils ne peut pas être reportée. Mais vous l'exercerez, la même, sur Saint Jean, comme vous l'avez exercé sur moi. Et derrière Saint Jean, vous le savez, il y a toute l'Église. C'est pourquoi la Sainte Vierge Marie est mère de tous les catholiques. Mère dans la douleur. Elle connaît ainsi la parole de Dieu à Ève. Tu enfanteras dans la douleur. La Sainte Vierge Marie nous enfante dans la douleur. Douleur, mais aussi consolation. Consolation de voir que les grâces que mérite notre Seigneur ont eu pour, par anticipation comme fruit l'Immaculée Conception dont elle bénéficie. Notre Seigneur Jésus-Christ offre à sa mère et reçoit d'elle, dans cette immense croix, une consolation toute surnaturelle. Non pas les consolations naturelles comme celle du vin, qui aurait adouci ses souffrances, mais les consolations surnaturelles, celles de la Sainte Vierge Marie, fruit de sa souffrance. Notre Seigneur voit déjà le fruit de sa souffrance dans cette Immaculée Conception. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous invite ainsi à chercher dans les désolations, non pas les consolations naturelles, mais les joies surnaturelles. En particulier la joie surnaturelle d'avoir la Sainte Vierge Marie, d'avoir une telle mère. Elle est notre mère. Fils, voici ta mère. Jean l'a pris chez elle, dans ses biens. Jean doit s'occuper de la Sainte Vierge Marie, mais nous aussi, nous devons nous occuper de la Sainte Vierge Marie, dans l'ordre de la grâce. Alors disons à la Sainte Vierge Marie, comme dans l'Ave Marie Stella, « Monstra te esse matre, montrez que vous êtes ma mère ». Mais écoutons-la, elle nous dit « Monstra te esse filiu, montre que tu es mon fils, et donc mon esprit. Imite-moi comme un fils imite sa mère. Demande-moi ce dont tu as besoin, comme un fils le fait auprès de sa mère. Aime-moi, fais-moi confiance, garde mes vertus. » Après cela, sachant que tout était consommé, Jésus, afin d'accomplir les Écritures, dit « J'ai soif ». Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats mirent une éponge pleine de vinaigre au bout d'un bâton d'hysope et l'offrirent à sa bouche en disant « Laissez, voyons si Élie va venir pour le descendre de là. » Lorsque Jésus eut bu le vinaigre, il dit « Tout est consommé ». Sitio, j'ai soif. Notre Seigneur a perdu tant de sang. La chaleur lui a arraché toute sa transpiration. Il ne s'est pas nourri, il n'a pas bu depuis la scène, il a soif. Sa sueur de Gethsémani, toutes ses fatigues, la grosse hémorragie du prétoire, tout cela en effet lui a soustrait une partie, une bonne partie de sa masse sanguine. Ses traits sont tirés. Sa figure hâve est sillonnée de sang qui se coagule partout. C'est le père Barbet, le docteur Barbet qui parle. Sa bouche est entrouverte et sa lèvre inférieure commence déjà à pendre. Sa gorge est sèche et embrasée, mais il ne peut plus déglutir. Il a soif. Dans cette face tuméfiée, toute sanglante et déformée, comment pourrait-on reconnaître le plus parfait des enfants des hommes? J'ai soif. Qu'est-ce que la soif? La soif, c'est un besoin du corps. Le corps a besoin de l'eau pour vivre. Sans eau, il meurt. Ainsi, notre Seigneur a soif dans son corps, mais il a soif dans son âme. Et la soif est un besoin de l'âme. Son âme a besoin des autres âmes pour vivre. Elle a comme besoin des autres âmes pour vivre. Cela n'est guère étonnant, puisqu'il est venu pour cela. Mon âme est troublée. Que dirais-je, Père, sauvez-moi de cette heure? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Oui, il est venu pour nous sauver. Propter nos homines et propter nostram salutem. S'il a pris nature humaine, s'il a pris une âme, c'est pour les âmes. Cette âme est donc pour les âmes. Notre Seigneur est un homme pour les autres. C'est pourquoi cette âme a besoin des autres âmes pour vivre. Et qu'est-ce qu'elle cherche dans ces autres âmes? C'est la grâce. Elle cherche la foi, l'espérance, la charité. Mais non seulement son âme cherche les âmes, mais sa personne, Dieu lui-même, a soif des âmes. Bien sûr, on ne peut pas dire au sens strict que notre Seigneur a besoin des âmes. Mais ce que veut dire cette soif, c'est que notre Seigneur aime tellement les âmes qu'on dirait qu'il a besoin d'elles, qu'elles lui apportent vraiment quelque chose. Non seulement quant à sa gloire extérieure, mais s'il était possible, même à sa gloire intérieure. Or, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que dit notre Seigneur? Il ne dit qu'une chose, c'est combien il aime les âmes et combien il désire qu'elles lui rendent. Cet amour, rappelez-vous ce qu'il dit à la Sainte Marguerite Marie à la Coque. Voici ce cœur qui attend aimer les hommes et qui ne reçoit d'eux qu'ingratitude. Notre Seigneur désire tellement la charité des âmes pour lui qu'il en a fait un commandement, le premier des commandements. Tu m'aimeras de toute ton âme. La soif de notre Seigneur n'est pas véritablement étanchée à cette heure. Certes, les justes de l'Ancien Testament l'ont aimé, mais au moment de la Passion, les justes de l'Ancien Testament ne sont pas encore glorifiés. Ils sont encore dans les limbes. Donc ils n'ont pas pu répondre à la soif de notre Seigneur comme notre Seigneur le désirait. Dans un petit instant, notre Seigneur va descendre aux limbes. Son âme va descendre aux limbes. Et là, il va amener les premières âmes dans la gloire. Et c'est là seulement que sa foi soif sera étanchée. C'est pourquoi il a tellement soif à cette heure. Quand toutes les âmes qui attendent dans les limbes monteront au ciel et recevront la gloire, elles seront enivrées de l'amour même de Dieu. Cet amour, nous voyons la dernière fois que c'est le ciel, la partie essentielle la partie essentielle du paradis, mais dans son aspect secondaire, le primaire étant la connaissance. Quand toutes ces âmes vont recevoir la gloire enivrée de l'amour de Dieu, alors il n'aura plus soif. Mais pour l'instant, il a soif de leur communiquer l'eau de la grâce. « Si tu savais le don de Dieu, disait-il à la Samaritaine, c'est toi qui aurait soif, c'est toi qui me demanderais à boire et je te donnerai de l'eau vive. » Que pouvons-nous faire pour donner à boire à notre Seigneur? Eh bien, il faut avoir le désir de la charité, le désir de l'aimer, car désirer aimer, c'est déjà aimer. Il faut donc avoir soif nous-mêmes pour étancher la soif de notre Seigneur. Consumatum est, tout est consommé. L'ancienne loi est consommée, elle est en train de mourir. C'est cela que dit notre Seigneur. C'est comme s'il disait, c'est moi qui ai consommé l'ancienne loi, non en l'abolissant mais en l'accomplissant. C'est pourquoi tout à l'heure, au moment de mourir, je déchirerai en deux le voile du temple. J'ai consommé la loi en l'observant. J'ai consommé, en créant l'univers, l'œuvre de la nature le septième jour, et je m'y suis reposé. Eh bien, en ce moment, je consomme l'œuvre de la grâce, en méritant la grâce. Tout est consommé, tout est mérité. Toute conversion, pour toute âme, c'est ce que nous disions au début, est méritée. Il ne nous reste plus à nous qu'à recevoir ce qu'il a acquis, car la consommation est parfaite dans son principe, mais il faut ouvrir notre âme à cette consommation. Et poussant un grand cri, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre vos mains. Et ayant incliné la tête, il expira. L'une des causes de l'atrocité du crucifiement, c'est sa durée. Le crucifiement peut durer de façon ordinaire 1 à 3 jours. Cela dépend de beaucoup de facteurs, la constitution du supplicié, les supplices antérieurs, etc. C'est pourquoi d'ailleurs la durée plus courte du supplice de notre Seigneur, 6 heures seulement, surprendra Pilate, qui s'étonne que notre Seigneur soit déjà mort. Si notre Seigneur est mort plus vite, c'est sans doute en raison de tous les supplices qu'il avait souffert déjà. De quoi notre Seigneur est mort? Probablement, il n'est pas mort par perte de son sang. D'ailleurs, le sang qu'il a perdu le plus, ce n'est pas pendant la crucifixion, mais pendant la flagellation. Notre Seigneur est très probablement mort par asphyxie. Un prêtre, le père des Lauries, a pu raconter des scènes de crucifiement, non par enclouage, mais par encordage, dont il a été témoin dans le camp de concentration de Dachau, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce prêtre était aumônier clandestin au service du travail obligatoire en Allemagne, et son zèle apostolique lui a valu d'être envoyé dans ce camp de concentration. Là, certains subissaient le crucifiement par encordage. Et le père Dolory a pu raconter ce qui a été confirmé par des expériences d'un chercheur qui s'est fait lui-même crucifier de cette façon-là, par encordage, sous contrôle médical. Et ce que ça donne, c'est ainsi. Lorsqu'on est pendu par les poignets, la position naturelle est de faire porter tout le poids sur les os des poignets et de reposer les jambes en les pliant. On peut alors inspirer et cela se fait de façon spontanée. Mais très vite, l'air vicié emplit les poumons et il faut expirer. Or, on ne peut pas expirer dans une telle position, puisque la poitrine est contractée, on est presque assis. Il faut donc se redresser. Pour cela, on s'appuie sur les clous des pieds. On exerce les muscles des jambes, tout le corps se lève, la poitrine se dégage et on peut expirer. Mais l'effort que cela représente sur les muscles, ainsi que la douleur, amène à nouveau à se laisser retomber. D'où le mouvement qui se reproduit. Pour que ces mouvements soient possibles, il faut que la distance entre les clous des mains ne soit pas trop grande, les cordages. Donc que l'angle fait par les bras lors du clouage ne soit pas trop grand non plus. De même, il faut que les jambes, lors du clouage des pieds, ne soient pas complètement étendues. Bref. Ce double mouvement est le seul qui permet aux suppliciés de respirer. Le problème de ce mouvement que notre Seigneur a nécessairement effectué pour pouvoir respirer pendant 6 heures, c'est qu'il représente à chaque fois une douleur intense, soit sur les clous des pieds, lorsqu'on se redresse, on s'appuie sur les clous, soit sur les clous des mains, lorsqu'on s'affaisse. De plus, à la longue, des douleurs musculaires et des crampes s'installent. Au bout d'un certain temps, il devient de plus en plus difficile de réaliser ces mouvements, ces tractions vitales, en raison de l'épuisement. Alors les mouvements deviennent de plus en plus lents. À la fin, faute de pouvoir se redresser, le supplicié asphyxie et meurt. C'est ainsi, sans aucun doute, que notre Seigneur a connu le crucifiement et est mort. Écoutons le docteur Barbet. Au bout d'un moment, le phénomène tant redouté se produit. Le phénomène de la crampe, l'épuisement qui empêche les tractions. Les muscles de ses bras se raidissent d'eux-mêmes en une contracture qui s'accentue. Les doigts s'incurvent en crochets, les crampes sont là. Les cuisses, les jambes sont atteintes de la crampe. On dirait un blessé atteint de tétanos en proie à ces horribles crises que l'on ne peut pas oublier. Ces douleurs que le Barbet a décrites de cette façon, avec des détails forts, ne doivent pas, il ne faut évidemment pas s'y complaire d'une complaisance, d'une curiosité purement naturelle qui pourrait d'ailleurs ne pas être très saine, vous voyez, bien sûr. Hein. Il faut les regarder comme nous donnant une idée des dispositions de notre Seigneur qui a accepté tout cela pour nous, du prix du péché, et aussi elles nous font deviner les souffrances intérieures. Bon, je continue. C'est ce qu'on appelle la tétanie. Les crampes se généralisent, le souffle devient plus court, plus superficiel. L'air entre en sifflant mais ne sort presque plus. Le supplicié a soif d'air. Ses poumons gorgés d'air ne peuvent plus se vider. Quelle atroce douleur doit marteler son crâne. Il va mourir. Cela le soulagerait tellement de ses douleurs, mais il ne veut pas encore mourir. Son heure n'est pas encore venue. Il faut souffrir encore. Il y a encore des choses à consommer. Jésus-Christ est mort. Tant qu'il n'était pas mort, il subissait des passions. Mais il n'avait pas encore subi sa passion. Sa passion, sa mort, c'est précisément cette dernière asphyxie, cette dernière traction, cette dernière respiration, au bout de laquelle il remet son âme dans les mains de son Père. Sans doute, lorsqu'au chemin de croix nous contemplons la mort de notre Seigneur, nous sommes tentés par le soulagement. Enfin, il ne souffre plus. Mais il ne faudrait pas oublier, premièrement, que subir la mort est de soi une grande douleur. Rien de plus naturel que la vie, rien de plus douloureux que la mort. Et puis, considérons qui meurt, la qualité de sa personne, et donc la qualité de sa vie. Saint Pierre pourra dire aux Juifs, « Vous avez tué l'auteur de la vie. » Jésus-Christ a subi les épines, qui étaient une conséquence du péché originel. Il a subi la mort, qui est aussi une conséquence du péché originel. Tout ce qu'il a subi est une conséquence du péché originel et nous libère de la mort. C'est sans doute une première leçon à retenir, la leçon la plus simple que nous offre la Passion, l'invitation à faire en sorte que ses fruits ne soient pas vains, ni pour nous, ni pour les âmes auxquelles nous pouvons faire du bien. Si le Christ est mort à la vie terrestre, c'est pour que nous mourions au péché. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Les quelques amis de notre Seigneur vont déposer dans quelques instants le corps de Jésus dans le sépulcre. Le souverain prêtre est mort comme une souveraine victime. Il est mort par obéissance et finalement par charité. Le sang et l'eau qui tout à l'heure vont couler de son côté, percés par la lance, seront les dernières gouttes qui sortiront de son cœur de chair. Ce cœur de chair, le sacré cœur, n'est que le signe de la charité de Jésus, la vertu de charité de son âme, la charité qui est sa personne, puisque Dieu est charité. Notre Seigneur nous a laissé ce sacrifice, cette rédemption comme une preuve de sa charité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors, encore une fois, qu'allons-nous faire? Ce qui nous reste à faire à nous, c'est de faire comme Saint Pierre. Non seulement de pleurer nos péchés, comme l'a fait Saint Pierre, péchés qui méritaient en justice une peine que le Sauveur a prise sur lui, mais en outre de mener une vie qui réponde à la soif de notre Seigneur. Une vie plus parfaite dans la poursuite de la réalisation de l'idéal chrétien. Cet idéal dont le souverain prêtre vient de nous donner un magnifique exemple. C'est-à-dire, tout simplement, la recherche de la perfection chrétienne. Ce qui nous demande donc, ce qui nous reste à faire, c'est à grandir en charité. Non pas tant la charité affective, la charité du sentiment, que la charité effective, une charité de conformité de vouloir, en sachant que tout est grâce, et donc cette charité est donc aussi une grâce qu'il faut demander, qu'il faut désirer. Ce qui nous reste à faire, c'est à répondre à la soif du sauveur. Sitio, j'ai soif. Eh bien, je vous désaltère. Voici ma charité. Comme le dit saint Augustin, celui qui nous a tant aimés, qui ne l'aimerait de retour? Allons terminer par la prière de complice.